En ville, écrit Henri Miller dans L'œil qui voyage, s'égarer dans une ville étrangère est la plus grande joie que je connaisse. S'égarer à Macao, suite, cette ville où se mariait si bien le merveilleux des deux extrémités du monde, avait la sérénité divine de l'instant qui n'en finit pas. Le voyage n'en finit pas, seconde escale Macao, ville-monde, bon voyage sur France Culture sans frontières.
Macao, un Disneyland de l'Europe latine en terre chinoise. Par Rafik Zénine, Jean-Michel Coqui et Alain Lefkovitch.
Ladies and gentlemen,
and you aussi, Father. Macao is the most wonderful city in the world. No war, no desolation, only happiness and joy. Just God, God. A sensual mass intelligent guide of all China, Raul Eduardo Joaquim Alvedo, myself. Adelante, signore e signorita, adelante!
Ama is the same name of Majo.
Ama, c'est le même nom que Majo, qui est une importante déesse chinoise de la région du Fujian. Il y a beaucoup de personnes originaires de cette région du Fujian ici à Macao. C'est aussi le même nom que Tianhu, la concubine céleste. Et donc, on est passé de Ama à Majo, ce qui a donné le nom Macao. Mais il existe également une interprétation locale à l'origine du nom de Macao, à laquelle j'adhère plus volontiers, qui explique que Macao vient d'un gros mot. Vous savez, les Cantonais aiment dire des gros mots. Quand les premiers Portugais sont arrivés à Macao, ils ont rencontré, ici, à Barra, des habitants locaux. Ils avaient avec eux un interprète originaire certainement de Goa ou de Malacca, mais qui n'était sûrement pas un bon traducteur. Alors lorsque George Alvarez, le premier navigateur portugais à avoir atteint le monde chinois, a demandé, par l'intermédiaire de ce traducteur, aux pêcheurs quel était le nom de cet endroit, les pêcheurs à qui il s'est adressé ont répondu
«
And then, Macao. Et l'interprète a dit « Macao, Macao ?» Kao est un gros mot qui signifie « pénis ». Mais ce que disaient les pêcheurs signifiait « qu'est-ce que ce putain de mec est en train de chercher ?»
Macao de haut, d'une vue aérienne, on voit trois Macao. Le vieux Macao, et puis le nouveau Macao qui est le côté hôtel Lisboa, tous les casinos. Et le troisième Macao, c'est le côté Taipa, Colowan, il y a tous ces nouveaux casinos, le Cotai, là, le côté Cotai.
Rétrocédé à la Chine le 20 décembre 1999, Macao est depuis, officiellement, la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. L'ancienne colonie portugaise est désormais l'une de ces villes évanouies qui n'existent plus, sinon en archipel, quelque part entre mémoire et imaginaire. Macao est devenue une ville réinventée, comme l'écrit Philippe Ponce dans son ouvrage intitulé simplement Macao, publié en 1999. Il y décrit cette langue de terre creusée par deux baies profondes à l'embouchure de l'estuaire de la rivière des Perles, un isthme si fin à sa base qu'on le comparait à la tige d'un lotus dont la fleur épanouie aurait été la ville, où l'Est et l'Ouest se sont rencontrés et qui n'est plus. Les coulées de béton du développement asiatique ont eu raison de cette ville d'illusion. S'adapter aux nécessités de la vie moderne a longtemps semblé le dernier souci de Macao, où une page d'histoire n'en finissait pas de se tourner. Puis, comme le constate l'auteur, elle fut tournée sans ménagement et le développement a eu raison de son indifférence au changement du monde. Les héritages sont réduits à un décor, à une mise en scène du passé. Dans cette ville où autrefois vagabondait l'imagination, on se cogne désormais à la réalité. Deux cités se recouvrent, l'une presque évanouie et une autre trop présente que l'on s'efforce d'oublier. Même son aspect physique s'est transformé. De 11 km² dans les années 20, Macao frôle aujourd'hui les 30 km². Même ces deux îles, Taipa et Coloane, sont désormais réunies par des remblais. Et Philippe Ponce de conclure, Macao est devenu comme un vieux livre dont on aurait arraché les plus belles pages. C'est dans cette ville presque évanouie, à quelques encablures des ruines de la cathédrale Saint-Paul, dans le vieux quartier chinois, fait de dédales de ruelles et d'escaliers abrupts, que Shan Yinyo, photographe originaire du sud de la Chine continentale, nous attend pour boire le thé.
Quand on reçoit des invités, on commence toujours par boire du thé.
Oui, chaque fois que je reçois des invités, je sers du thé chinois parce que, comme le thé, c'est l'essence de la culture chinoise, alors c'est la bonne chose. Quoi. C'est aussi un sujet qu'on peut développer aussi.
C'est-à-dire ?
Parce qu'entre Chinois, le thé, c'est une boisson quotidienne. Et, entre Chinois, il y a des amateurs comme moi et lui. Quand on voit le thé, tout de suite, on développe un sujet. On dit, ah, ce thé est bon, qu'est-ce que vous aimez comme thé, voilà. C'est un sujet à parler, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le thé que vous nous servez là, ce matin?
C'est une sorte de thé rouge qui est produit dans Yunnan, dans le sud de la Chine.
Alors cette petite table, parce qu'il y a tout un rituel, vous pouvez nous expliquer comment on sert ce thé?
Je ne suis pas un vrai professionnel, mais je suis un amateur de thé. Mais selon différents types de thé, on utilise différents types de différentes températures de l'eau parce que chaque thé a différents. Et d'abord, on chauffe le théier, les tasses, et puis on nettoie les feuilles de thé, et après on sert. Voilà.
Alors, traditionnellement, ici, dans ce vieux quartier de Macao, le quartier historique de Macao, où la population chinoise vivait, il n'y avait pas l'eau courante, il y avait des puits. C'était une activité quotidienne d'aller chercher de l'eau dans ce quartier?
Oui, tout à
fait. Bon, dans les années 20 ou même dans les 30, il n'y avait pas d'eau courante. Alors les habitants qui vont chercher l'eau dans les puits.
Et
il y a des puits publics pour la population. Sinon, dans les grandes maisons riches, il y a des puits privés. Et devant la porte, il y a un signe chinois qui veut dire puits. C'est pour quoi faire? C'est pour quand il y a un incendie, les pompiers qui vont chercher l'eau dedans. Voilà.
Il y avait des Chinois riches ici, parce qu'on peut imaginer qu'à l'époque, des Portugais, les Chinois étaient pauvres et les Portugais étaient riches.
Il y a des Chinois très riches.
Alors, ils faisaient quoi ces Chinois riches?
Si on veut parler des Chinois il y a un siècle à peu près, il y a des Chinois très riches, bon, ils sont dans les jeux aussi.
On a l'impression quand même que toute cette vie est en train de disparaître, toutes ces petites ruelles, tous ces petits commerces qui rappellent le Macao d'avant. Vous disiez tout à l'heure, Echo, le Macao des films qu'on peut voir de Wong Kar-wai, par exemple, qui plaît beaucoup aux Occidentaux. On a l'impression que tout ça est en train de disparaître.
Oui, tout à fait. Depuis quelques années, beaucoup des vieux immeubles sont disparus parce que depuis quelques années, le marché d'immobilier est très évolué. On achète le vieux bâtiment, on construit un nouveau. Sinon, le vieux patron qui prend sa retraite, alors la jeune génération ne veut pas reprendre le relais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vieux commerces qui sont fermés aussi. C'est très, très dommage parce que dans ce quartier, les bâtiments sont... ils ont des styles très, très jolis et on ne peut pas trouver ailleurs. En fait, la plupart des immeubles, l'architecture est chinoise, mais mélangée avec un petit peu de style portugais. Oui, c'est très, très regrettable que ces vieilles maisons disparaissent. Mais ce que il peut faire, c'est qu'il prend tout ça en photographie et garder la mémoire et montrer aux gens, voilà, aux gens que ces maisons de Macao. C'est parce que ces maisons sont le témoin du temps de Macao.
Le Macao que nous montre Franck Lay, photographe et macanais de souche, n'est ni le Macao du jeu, ni le petit Portugal en Asie, bien connu des touristes. Ce n'est pas non plus celui des églises et des temples, ou celui des nouveaux quartiers rectilignes et disgracieux qui ont poussé sur ses franges ces dernières années. Lui, ce qu'il nous montre, c'est le Macao du quotidien, la ville chinoise, saisie dans son lacis de ruelles obscures et anodines, ses maisons un peu vermoulues, ses murs de briques que le temps a disjointes, des vieux quartiers délaissés par l'histoire et la modernité, ensommeillés au point que l'on se demande s'ils ne disparaîtront pas, sombrant dans l'oubli avant même de s'éveiller.
Alors Franck Lay, on est où là?
On était, le nom ça s'appelle, en cantonais c'est Gongjianhang. Gongjianhang ça veut dire, c'est une petite rue, il y a plein de travailleurs. Le Gongjian ça veut dire les travailleurs quoi.
Alors là on est devant le numéro 10 de cette rue, c'est là où vous avez passé une partie de votre enfance?
Oui. Bien sûr, avant j'étais à Pékin, donc vers 10 ans, avec mes parents, on était rentrés à Macao. Donc je me souviens, c'est ça, c'est ici, bien sûr, avant, la maison, c'est pas comme ça. Mais j'ai un souvenir, c'est la première fois que j'ai senti, c'est-à-dire à l'époque, parce qu'ici c'est une sorte de marché, donc j'ai senti l'odeur de marché. Mais c'est assez pénible pour moi. Mais bien sûr, à l'époque, c'est une ancienne maison parce que mes parents, plutôt c'est ma grand-mère, leur boutique c'est vendre les vins chinois. Les vins chinois, c'est très traditionnel, les vins chinois. L'alcool, en fait, c'est de l'alcool.
Ouais. Alors, sur la façade de votre immeuble, il y a marqué Pousse-Lao, mais peut-être que je prononce mal, comment on dit?
Pousse-Lao, oui, Pousse-Lao.
Et Pousse-Lao, ça veut dire?
Pousse-Lao, ça veut dire il y a la pierre en trésor. Ouais.
Des belles pierres, quoi.
Voilà, des belles pierres. On voulait être riche, quoi.
Parce que quand on regarde là, la façade, c'est recouvert de carrelage des salles de bain. Elle est où, la belle pierre, aujourd'hui?
La pierre, il faut imaginer. Parce que, non, c'est-à-dire, ça a seulement donné une sorte d'imagination pour les habitants, quoi. Il n'y a pas de beau pierre. C'est...
Alors tous les jours sur Facebook, vous postez une photo de ce quartier et votre mère n'est pas contente parce que vous montrez une mauvaise image de la ville. Elle trouve que les photos que vous mettez sur Facebook sont des photos d'endroits moches.
On peut dire c'est pas vraiment moche. C'est-à-dire que je montre, en fait c'est des Macao, je montre les Macao actuels. Avant c'était plutôt simple, joli, mais maintenant petit à petit... Il y a des compagnies, ils sont derrière eux, ils sont des supports importants, donc ils pourraient tout d'un coup faire des bâtiments très très hauts, et puis ça empêche les autres habitants voir un peu la mer. Donc je trouve ça, c'est ça c'est un peu, soi-disant un peu violent. C'est dans ce sens-là que je voulais montrer le Macao actuel.
C'est un autre thé.
Il est très bon. Hein.
C'est quoi? Il a changé de thé.
Ça, c'est pas du thé rouge alors. C'est quoi comme thé?
C'est quoi comme
thé?
C'est quoi comme thé? C'est quoi comme thé?
C'est
un autre thé qui
s'appelle la grande robe rouge.
Et alors, avec la disparition de toutes ces maisons, c'est aussi toute une vie qui disparaît. Tout un tissu social qui disparaît, des relations entre les gens qui disparaissent.
Oui. Parce que,
ils voient l'évolution du quartier d'abord, le vieillissement de la population. Il y a beaucoup de personnes âgées ici et les jeunes ne veulent pas habiter ici parce que ce n'est pas confortable. Et puis, il y a des étrangers comme des étrangers qui viennent de l'Asie du Sud, des Philippines. Il y a même des Africains qui habitent ici parce que le loyer est moins cher.
Alors, qu'est-ce qui disparaît? J'imagine qu'il y a des ambiances, il y a des bruits qui disparaissent, il y a des odeurs qui disparaissent liées au commerce. Qu'est-ce qui a disparu dans ces bruits et dans ces odeurs?
Oui,
on peut dire que c'est le bruit aussi parce que dans certains métiers ou commerces, il y a des bruits ou il y a des langages spéciaux. Par exemple, dans le petit café il va tous les jours, pour l'addition, le restaurant, le café, il n'utilise pas l'ordinateur ni la calculatrice. C'est le serveur qui crée combien ça coûte. Et si ce petit café disparaît, ce bruit disparaît aussi.
Alors, quand on discute avec les gens, tout le monde nous dit « Oh là là, il y a de plus en plus de mainlanders, de Chinois du continent qui arrivent à Macao, il y en a beaucoup trop, il faudrait que le gouvernement mette des restrictions à l'entrée de tous ces Chinois du continent, etc. » Vous êtes les nouveaux immigrés, Chaninho, vous êtes un métèque ici, vous êtes celui qu'on n'a pas envie de voir, il y a trop de Chinois du continent ici.
老實講啊，我都係國內嚟嘅。
C'est vrai, en tant que Chinois du continent, c'est très difficile pour lui de parler ça. Et puis c'est très paradoxal aussi parce que Macao, c'est très petit. Macao a besoin des touristes chinois qui viennent ici pour consommer. Par contre, l'arrivée massive du tourisme, ça crée un problème. Ça perturbe l'harmonie de Macao.
C'est quoi l'harmonie de Macao?
D'accord. Quand il est arrivé à Macao il y a une quinzaine d'années, Macao c'était très très paisible, tranquille. Il n'y avait pas autant de monde comme on voit aujourd'hui. Par exemple, dans la place Neo Senado, tous les jours, c'est bourré de monde. Et si il n'a pas besoin d'aller là-bas, il évite d'aller là-bas parce qu'on ne peut plus circuler là-bas.
C'est
toujours le nombre de visiteurs qui pose le problème parce que quand il y a trop de touristes, les magasins ne cherchent pas la qualité, ils cherchent que la quantité, ils cherchent que gagner l'argent. Et pour les touristes ou pour nous, on n'est pas bien servi. C'est pour ça que l'harmonie ou la qualité diminue.
Ah,
Francesco Pinheiro est l'un des 600 000 résidents permanents de ce qu'on nomme désormais la Cité des Rêves. Et c'est grâce à cet architecte de renom que Macao semble avoir évité la catastrophe urbanistique annoncée alors que la ville devenait le Las Vegas asiatique.
In 1999, Macao have around 8 million visitors.
En 1999, il y avait à Macao 8 millions de visiteurs par an. Chaque année, il y en a un peu plus, si bien qu'aujourd'hui, nous avons 30 millions de visiteurs. C'est pour ça que nous avons des flots de touristes qui dépensent de plus en plus d'argent ici. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de boutiques locales ont été rachetées par de grandes chaînes qui vendent des bijoux, de l'or ou de la nourriture, comme Starbucks, McDonald's ou
Haagen-Dazs.
Ces grandes enseignes viennent ici et dépensent des millions pour acheter ces boutiques qu'elles transforment en boutiques chics. C'est un phénomène de gentrification. Et ça nous inquiète beaucoup parce que dans ce contexte, les petites entreprises familiales ont de plus en plus de mal à survivre. Et même si vous payez un loyer pour rester dans ces boutiques, comme il n'y a pas de mécanisme de contrôle des loyers, à la fin de votre contrat, votre loyer peut augmenter de 400 à 1000%. Le petit business est sacrifié sur l'autel du gros business. C'est ce qui s'est passé avec cet immeuble. C'était un building loué par le gouvernement qui s'en servait comme un centre touristique de produits d'art locaux. Mais ça a disparu parce qu'un homme d'affaires très riche est venu et a transformé ce centre touristique en boutique chic. C'est un vrai problème. Et le phénomène ne fait que s'amplifier. Cela veut dire que dans une certaine mesure, Macao est victime de son propre succès.
Le problème de la rénovation de la ville, ou tout du moins du rapport à ce patrimoine visible, tangible.
Éric Sautedet, sinologue et universitaire, résident à Macao depuis près de 10 ans.
Il tient plus à d'autres choses. D'une part, à ce qui a déjà été dit sur le fait que les communautés s'ignorent. Et c'est vrai que les traces du passé, alors il y en a des portugaises, mais il y en a aussi des chinoises. Il y a des très vieux temples, des temples qui datent du XVIIe siècle, de différentes obédiences, alors des taoïstes, des bouddhistes, qui ont été très très bien préservés, avec des rites qui sont aussi encore très vivants, tant et si bien qu'il y a pas mal d'anthropologues de Hong Kong qui viennent encore ici, parce que à Hong Kong, tout a été détruit d'une certaine façon, on ne peut plus en rien trouver d'authentique. Et on le voit, donc il y a une moins grande ignorance par rapport au patrimoine chinois, avec des associations très fortement constituées. Pour le patrimoine portugais, il y a eu une volonté de sauver les murs, de sauver les façades, mais c'est vrai que tout côté fonctionnel des choses n'a pas forcément été aussi bien pris en compte. C'est en train de changer. On a eu la chance en 2005, à l'été 2005, d'avoir Macao classé, enfin pour une vingtaine de ses sites, en tant que patrimoine mondial de l'humanité. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, sachant que Macao a été, le gouvernement de Macao a été plusieurs fois rappelé à l'ordre parce qu'il ne faisait pas assez, notamment pour l'entretien de la façade de Saint-Paul, qui est cette icône de l'héritage portugais métis, en plus construit par les prêtres, des jésuites, et puis des prêtres et des artistes fuyant le Japon et les persécutions des catholiques au Japon. Donc c'est effectivement un lieu assez remarquable. Mais on leur a tapé sur le doigt, parce que l'UNESCO leur a tapé sur les doigts, parce que justement rien n'était fait. Il y a beaucoup de musées qui ont été faits avec une volonté politique, donc juste avant la rétrocession, pour essayer de démontrer en gros qu'il y avait une convergence des histoires et que le Portugal et la Chine étaient faits inexorablement pour se rencontrer à Macao. Et c'était une grande histoire très hagiographique de cette rencontre qui s'est toujours passée soi-disant sous les meilleurs auspices. Or c'est bien évidemment très très loin d'être vrai. Mais comme on est effectivement dans une optique à Macao, où dans l'enseignement, il n'y a pas d'enseignement de l'histoire de Macao, il n'y a qu'un enseignement de la Chine, avec les écoles patriotiques qui enseignent de plus en plus une histoire très figée de la Chine, avec une historiographie très biaisée aussi. Ça c'est un risque. Mais il commence à y avoir des historiens qui s'intéressent aux deux historiographies. Il commence à y avoir des gens, des locaux, qui créent des associations de préservation de ce patrimoine, qui traversent les différentes communautés. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, les Chinois travaillaient d'un côté, et les Portugais travaillaient de l'autre, sachant que les Portugais, c'était quand même l'héritage colonial qui essayait de survivre ou de continuer dans l'être. Alors qu'ils avaient quand même un héritage qui n'était pas forcément très, très enthousiasmant pour la grande majorité de la population. 60% de la population à Macao n'est pas née à Macao. Donc la population est à 97% chinoise, mais donc presque 60% de cette population chinoise n'est pas née à Macao, est venue et émigrée de fraîche date au moment justement du développement de ces industries manufacturières, du boom des années 80. Et donc l'attachement à Macao, il est quand même assez distant, assez ténu. Donc il y a tout un travail de réappropriation, ça prend forcément du temps, une génération. Nous on le voit avec la génération de mes étudiants qui a la vingtaine, il y a une nécessité aussi de les faire se rendre compte que c'est leur passé, c'est leur histoire, c'est que la liberté auquel ils attachent tant d'importance, elle est liée aussi à cette histoire coloniale, sinon ils ne bénéficieraient pas aujourd'hui effectivement du pays de système.
Débarqué sur cette terre d'aventure en 1992 pour présenter son travail, Constantin Besmertny, artiste sibérien originaire de Blagoveshchensk, n'est jamais reparti, comme rattrapé par une histoire familiale lointaine, celle d'ancêtres portugais de Macao. C'est loin du tumulte de l'entertainment ambiant qu'il a choisi de vivre, au beau milieu de Coloane, dernier endroit de l'isthme où la jungle est encore permise.
Il y a deux sortes de Macao. D'un côté, c'est Sodome et Gomorre, la ville des péchés. Et d'un autre côté, quand on réalise la quantité de personnalités importantes et d'influences qui ont traversé Macao, on réalise qu'en termes de taille, si on écrivait une histoire de Macao, on aurait certainement plus de volume que n'importe quel autre pays. Dans ce sens, c'est un endroit chargé de culture, un carrefour culturel et religieux. Il se passe ici des choses qu'on ne pourrait jamais imaginer ailleurs dans le monde. C'est une sorte de miniature de tous les pays.
You could see it in a miniature way, like on a table.
Si on dispose sur une petite table tous les éléments qui constituent la société macanaise, on a un gouverneur, des criminels, des gangsters et des prostituées. Mais il est plus facile d'évoluer dans cette société que dans n'importe quelle autre, comme la Russie ou la France, où il faut pénétrer des strates de la société très imperméables, avec par exemple des politiciens qui ne restent qu'entre eux et des gens qui ne se mélangent jamais. Un bureaucrate ne va jamais aller se mêler avec des travailleurs. Ici, on peut avoir des amis ouvriers et dans le même temps avoir facilement ses entrées chez le gouverneur. Je ne parle pas forcément du gouverneur actuel. J'ai passé 17 ou 18 ans sous l'administration portugaise et c'était assez drôle également. À l'époque, elle avait préservé toutes les caractéristiques d'un État colonial. C'était sans doute la dernière et la plus drôle des colonies encore en place. Par exemple, le ministre de la Culture était un colonel. C'était amusant de voir un militaire de haut rang venir inaugurer une exposition ou présenter un événement culturel. Le gouverneur était très friand d'événements culturels. En 1992, Hong Kong était un désert culturel par rapport à Macao. Les choses changent actuellement, mais les gens restent solidaires les uns des autres parce que nous avons un côté très méditerranéen que n'ont pas les Hongkongais.
Michael Jackson. 你剛才聽過這首作品 Love Never Felt So Good. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. About your kind.
Alors, on a quand même l'impression que les Macanais, c'est depuis la rétrocession, les dindons de la farce, parce que. Il y a les Portugais qui maintiennent leur pouvoir ici, leur pouvoir économique. Beaucoup sont avocats d'affaires, beaucoup sont notaires, beaucoup sont de gros commerçants. Certains sont liés au pouvoir, certains sont liés aussi aux gros casinos qui sont là. Les Chinois, voilà, c'est les nouveaux maîtres de Macao. Et puis finalement, on a l'impression que les grands perdants de tout ça, c'est les Macanais.
Oui et non. Non, pas forcément, en fait. Disons que les Macanais étaient très, très proches de l'administration coloniale portugaise, puisqu'ils en étaient les sous-officiers. Et les officiers étaient portugais, les sous-officiers étaient les Macanais. Comme toute population métisse qui veut survivre, ils savaient parfaitement à quelle sauce ils allaient être cuisinés après 99. Et aujourd'hui, il y a quand même à l'Assemblée, sur 33 membres, il y a quand même deux Macanais. Après, il y a énormément de Macanais qui restent importants dans la communauté, notamment dans les milieux culturels, mais pas seulement dans l'administration publique, que ce soit au protocole, que ce soit aux finances, que ce soit... Il y a une communauté macanaise, mais la communauté macanaise n'est pas une, comme toute communauté. Il y a les petits Macanais... Parce que justement, José Pereira Coutinho, le député élu qui représente les petits fonctionnaires de Macao, son association quand même rassemble plus de 10 000 personnes. Il parle des Macanais silencieux, de ces voix silencieuses de Macao qu'il représenterait à l'Assemblée. Et puis, il y a ces grandes familles de notables qui effectivement détenaient beaucoup de patrimoine ici, qui en ont souffert, mais qui savent honnêtement tirer très très bien leur épingle du jeu quand même de la transition vers le pouvoir chinois.
Aujourd'hui, Francisco Pinheiro, on est devant donc la façade de Saint-Paul. Il ne reste plus que la façade de Saint-Paul. Et puis là, dans le quartier où vous nous avez donné rendez-vous, on a l'impression d'être au Portugal. Ça pourrait ressembler à un quartier de Lisbonne. Puis juste derrière nous, il y a le Grand Lisboa, énorme casino. Il y a une compétition aujourd'hui entre la façade de Saint-Paul et... Cette façade du Grand Lisboa qui ressemble à une sorte de lotus géant.
That is a very good comparison, and many people ask this.
C'est une très bonne comparaison. Les gens se demandent souvent comment peuvent coexister ici une sorte de Vatican de l'Asie et une ville de péché. Depuis la libéralisation économique, les dirigeants de cette ville des péchés étaient très anticatholiques. À l'époque, il n'y avait pas d'évêque à Macao. Et puis, un nouveau gouverneur est arrivé. Il a retiré tous les pouvoirs politiques aux jésuites et aux religieux. Les couvents se sont alors vidés. Et à la place des prêtres et des prieurs, on a mis des soldats. Alors, si on parle de la cité de Dieu et de la cité des hommes, la cité des péchés, le nouveau gouverneur, qui était proche des Jacobins français et des francs-maçons, a constaté que les Chinois ne fonctionnaient pas du tout de la même manière.
Ils
aimaient beaucoup jouer, ils aimaient fumer de l'opium, ils appréciaient les prostituées, et donc il s'est dit qu'il fallait légaliser toutes ces activités. On n'a pas interdit le péché, on a même tenté de les faire revenir dans le droit chemin et de les convertir. On a accepté leur façon d'être, mais on leur a imposé des taxes sur toutes ces activités pécheresses. C'est pour ça que vous avez les casinos et les restes de l'église.
Quand je suis arrivé à Macao en 1992, j'ai trouvé la plus belle des bannières. Vous savez, le vieux drapeau colonial portugais de Macao. Il est bleu avec deux anges qui tiennent la terre à bout de bras. Et il y est écrit Macao, la cité de Dieu. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une atmosphère très spirituelle qui plane sur Macao. Par exemple, pendant l'épidémie de SRAS, Macao semble avoir été totalement épargné, comme si Macao avait été protégé par la grâce de Dieu. Bien sûr, tout ça est dû à la présence des jésuites ici depuis le début. Aujourd'hui, ça change. On a remplacé la cité de Dieu par la cité des rêves. Je ne sais pas qui a inventé ce concept, mais il a dû sortir de l'imagination de publicitaire afin de créer une sorte d'identité corporate, un peu comme le slogan « Tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas ». À l'opposé, ici on dit « Tout ce qui se passe à Macao devient planétaire ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Tous ces messages sont destinés à l'attention de tous ces médiocres touristes chinois qui viennent ici voir des décors en plastique de Venise et maintenant de Paris. Il y a 10 ans, si on m'avait dit qu'il y aurait un jour une reproduction de Venise ou de Paris à Macao, j'aurais rigolé. Ça m'aurait semblé ridicule. Aujourd'hui, ça existe. Vous savez bien sûr que tout ça est ridicule. Mais n'oubliez pas que les gens ignorants ont le droit de rester ignorants. Et donc, on ne peut rien faire. Vous pouvez juste savourer le fait d'être différent. Vous balader et rire de toute cette stupidité et du talent avec lequel elle s'exerce.
Você está a ouvir France Culture, cidade mundial, Macao. Ville Monde, Macao.
Vous está a ouvir France Culture, cidade de mundo.
Macao.
À Macao, on l'appelle le chouchou des dieux. Produit de la colonisation, Carlos Marrero a du sang chinois et portugais qui coule dans ses veines. Architecte de formation, il n'en reste pas moins l'un des animateurs phares de la scène artistique locale, poète et activiste. Engagé socialement auprès des plus démunis, Carlos Marrero semble assister, comme ses impuissants protégés, au déclin de Macao, qui risque bien de disparaître plus vite que Venise qui s'enfonce dans sa lagune.
Vous parlez de toutes ces saveurs macanaises qui ont attiré ces poètes, ces peintres tout au long de ces derniers siècles. Aujourd'hui, et là c'est à l'architecte que je m'adresse, aujourd'hui on a tous ces nouveaux casinos. Il y en a un qui s'appelle le Grand Lisboa. Certains disent qu'il ressemble à un lotus, d'autres considèrent que c'est une épée plantée dans le sol. Il y a le Galaxy qui ressemble à un gâteau de mariage chinois. Il y a tous ces horribles constructions qui doivent polluer vos yeux, non?
This building all reach,
tous ces bâtiments font 170 mètres de haut. Mais le bâtiment le plus haut de Macao, c'est le Grand Lisboa. Il fait 228 mètres de haut.
Quel que soit l'endroit où on se situe dans la ville, on voit ce Grand Lisboa. Comme si ça devenait l'identité de la ville, c'est triste.
Vous savez, je crois que je ne suis pas complètement d'accord avec vous. C'est bizarre, mais tellement bizarre. Si j'en avais été l'architecte, je n'aurais pas pu faire ça. Je ne sais pas comment faire quelque chose comme ça. Parce que le donneur d'ordre doit être particulièrement brillant pour demander à quelqu'un de construire ça. Ça va au-delà de toutes nos références. C'est en un sens tellement surréaliste que je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas comment prendre un truc pareil. Personne n'est indifférent à propos de ça. Regardez, même d'ici on peut le voir.
So expressive, it is watch in
c'est tellement expressif On peut le voir de presque n'importe quel endroit de Macao.
So bizarre.
C'est tellement bizarre.
You know, the official, architectural brief
of l'explication officielle de cette construction repose
Fabergé.
Sur l'idée de l'œuf de Fabergé et des plumes de cancan du carnaval de Rio.
The feather of Brazilian carnival and cancan. That was the official
version. Ça, c'était la version officielle. Mais les gens y voient plus un lotus ou d'autres choses.
Somebody call it a pineapple.
Certains l'appellent l'ananas.
One thing I assure
mais je peux vous assurer d'une chose, honnêtement.
I consider it
je le trouve beaucoup mieux que d'autres casinos, parce que justement, c'est bizarre.
It is bizarre. But it has character.
Mais il a du like caractère, Lisboa, you know? Tout comme le vieux Lisboa.
Everybody wants to list old Lisboa.
Tout le monde souhaite qu'il soit classé.
When it was built, I was a teenager.
Quand il a été construit, j'étais adolescent et tout le monde l'appelait le gâteau chinois de mariage.
A Chinese wedding cake. It is not datable. If you look,
c'est une construction qui n'est pas datable.
You don't know if it is 30s. It can be a bizarre art deco.
Quand vous regardez l'hôtel Lisboa, vous ne savez pas si ça date des années 30. Une construction bizarre art déco qui peut dater des années 40, ça peut ressembler à Las Vegas ou à Miami. En fait, on n'en sait rien. C'est intemporel et c'est très intelligent. Parce que ça ne laisse personne indifférent. Et s'il doit être classé, j'approuverai cette décision. Si je dois signer une pétition dans ce sens, je le ferai. Vraiment. Donc pour moi, le Grand Lisboa a beaucoup de personnalité. Mais en général, je n'aime pas l'architecture des casinos de Macao. Ils peuvent proposer une bonne qualité de divertissement, posséder de très bons restaurants, mais en termes d'urbanisme et d'aspect de la ville, rien de neuf a été apporté, même sur la péninsule.
Or a new vocabulary, mainly in the peninsula, nothing new was brought. The new gaming industry brought nothing to Macau. And some of the buildings are.
Certains de ces casinos sont non seulement horribles, mais en plus, ils n'ont rien à voir avec ce qui se pratique ici traditionnellement, ni même avec la vie quotidienne des gens. Je peux accepter ce genre de choses sur Kotai, parce que, en plus de la forêt vierge, nous sommes sur des terres gagnées sur la mer et qu'il n'y a pas un fort héritage patrimonial. Ok, ils peuvent y faire ce qu'ils veulent. Mais ce que je déteste par-dessus tout, ce sont les répliques comme le Venetian. On est dans une sorte de jardin d'enfants pour adultes.
Là, devant nous, la rue Saint-Paul, qui mène justement aux ruines de l'église, l'ancien collège jésuite. Il n'y a plus beaucoup de Japonais aujourd'hui, il y a essentiellement des Chinois. Qui sont tous ces Chinois qui viennent ici aujourd'hui visiter à la fois Saint-Paul et, j'imagine, jouer aussi au casino? Oui. Ces addicts de la cité de Dieu et la cité des péchés.
That's a very good question. Most of the visitors come from
C'est une bonne question. La plupart des visiteurs viennent de Chine continentale. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils voient une église. Mais malheureusement, ils ne voient que les ruines de cette église parce qu'il n'y a plus rien. Mais en fait, la plupart viennent tenter leur chance au jeu. Parce que le destin et la chance sont très importants dans la culture chinoise. Alors aujourd'hui, ce ne sont plus les Portugais qui tiennent les rênes du pouvoir, mais une poignée d'oligarques chinois qui ont des parts dans l'industrie du jeu. On fait de la politique et des affaires en même temps.
Les mafias, les triades.
The triad, I think now they were more calm.
Les triades se sont calmées, sans doute parce que l'armée chinoise est présente ici. Il se passe ce qui s'est passé à Las Vegas. Les triades sont puissantes, elles se sont organisées, si bien que le crime organisé se déroule dans une atmosphère plus calme, et certains des chefs mafieux sont devenus des hommes d'affaires respectables.
Mais maintenant, certains d'entre eux sont des respectables businessmen, essayant de faire des choses respectables. and many aspects of the violence.
La violence a également évolué.
Other aspects still there, like the human trade,
moins de meurtres et d'enlèvements. Mais certaines pratiques persistent, comme le commerce des femmes pour la prostitution, et beaucoup de gens sont victimes des prêteurs sur gage. Ils sont harcelés ou torturés tant qu'ils ne remboursent pas ce qu'ils doivent. On blanchit beaucoup d'argent sale, toutes ces choses que l'on peut lire dans les journaux de temps en temps.
Macau needs desperately.
Macao a désespérément besoin d'un grand projet d'avenir et d'une stratégie pour y parvenir. Où est-ce que Macao veut aller?
Macao should move towards. Otherwise, the density, the not a vision of a strategic.
Nous n'avons pas pour l'instant de stratégie de développement pour le futur de Macao, qui doit être basé sur une plus forte polarisation et prendre en compte les questions environnementales. Nous sommes situés dans l'estuaire de la rivière des Perles et la polarisation ne doit pas se faire n'importe comment.
The reclamation must be done properly. Otherwise, the flow.
Car les eaux de cette région pourraient nous causer beaucoup de problèmes environnementaux.
Will raise a lot of environmental problems.
Agnès Lam est professeure de littérature à l'université de Macao et poétesse. Parfaitement chinoise, elle reste attachée à l'âme de son Macao d'antan, celui que dépeignaient les auteurs portugais d'alors. Vous nous avez donné rendez-vous ici à l'université de Macao. Pourquoi c'est un lieu important pour vous ?
C'est un endroit important pour moi parce que c'est là que j'ai eu mon diplôme universitaire et puis c'est ici que je travaille depuis presque 15 ans. Et donc je peux dire que j'ai passé la plus grande partie de mon existence dans cette université. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi le fait que cette université et ce campus symbolisent ce qui va se passer pour Macao dans l'avenir. Ce campus s'appelle aujourd'hui le Vieux Campus, parce que nous en avons un nouveau, qui est situé sur l'île de Henshin, à Zhuhai, en Chine continentale. Nous avons physiquement quitté le territoire de Macao. Le gouvernement de Macao loue la terre au gouvernement local de Zhuhai. On verse un loyer au gouvernement local parce que nous n'avons pas assez d'espace ni de terre ici. Nous avons de plus en plus d'étudiants, mais nous n'avons pas la place pour nous développer. Cette histoire d'université nous montre à quel point Macao se développe rapidement et à quel point nous manquons de ressources. Nous manquons de terres pour l'éducation. Et dans le même temps, on voit que les principaux casinotiers, eux, n'ont pas de problème de développement et veulent même construire des casinos ici. C'est très symbolique du Macao d'aujourd'hui.
C'est-à-dire que l'université de Macao a déménagé en Chine continentale ?
Oui, mais officiellement, on ne parle pas d'un retour à la Chine continentale, parce que ce morceau de terre va être donné à l'université de Macao et non pas au gouvernement de Macao. C'est l'université de Macao qui va en avoir la gestion. Et ce sont les lois de Macao qui y seront en vigueur. L'accès à Internet sera le même qu'ici. Nous aurons accès à Facebook, à YouTube sans restriction, et ça, c'est une bonne nouvelle. Néanmoins, je pense que symboliquement, ça représente un grand changement pour la société. Parce que si on veut se développer, on a besoin de plus de logements. Et nous devons trouver de nouveaux espaces ailleurs, comme à Zhuhai, par exemple. C'est ce qu'on appelle la politique d'intégration entre Macao et la Chine continentale. Une politique qui est déjà en œuvre. Macao fait partie de la Chine. mais nous n'avons pas le même système légal. Nous utilisons toujours la loi portugaise dans le cadre d'un pays, deux systèmes. Dans le cas de ce nouveau campus de Henshin, on est dans le cas des deux systèmes. On a un campus à Zhuhai en Chine continentale, mais qui est géré par la loi de Macao.
Alors, en quelle langue on enseigne à l'université de Macao ? Anglais, portugais, mandarin, cantonais ?
En fait, la langue officielle de l'enseignement dans cette université, c'est l'anglais. Les langues officielles de l'administration sont le chinois, l'anglais et le portugais.
Okay, both of them, three of them, they are official.
Mais ici, la plupart des cours se font en anglais. On a encore quelques cours qui se font en portugais si vous êtes étudiant en portugais ou en droit. Mais bien sûr, nous avons également des cours qui se font en chinois. Par exemple, nous avons une filière journalisme en anglais et une filière journalisme en chinois.
Quel chinois, le cantonais ou le mandarin ?
Ça dépend du professeur. En général, les Chinois de Macao enseignent en cantonais. Mais comme nous avons de plus en plus d'étudiants originaires de Chine continentale et qui ne comprennent pas le cantonais, on peut leur donner des cours en mandarin. Mais on les encourage vivement à apprendre les langues locales.
Macao, c'était au 19e siècle 11 km2. Aujourd'hui, c'est 30 km2. 30 km2 donc de la terre qu'on a gagnée sur la mer pour y construire des nouveaux casinos, pour y construire des hôtels, pour y construire ce qu'on appelle des structures liées à l'entertainment. Et on est obligé de construire une université nouvelle ici à Macao, en Chine continentale, de l'autre côté du fleuve.
Alors voilà, c'est un petit peu l'ironie de l'histoire. Au sens où effectivement on a pu avoir, donc on a gagné énormément toutes les différentes phases de polderisation, mais là où on se trouve au club militaire à l'heure actuelle, il y avait la mer juste devant. C'était le bout de ce qu'on appelait la Praia Grande, qui était vraiment la superbe promenade sur laquelle tout le monde se rendait, notamment venant de Hong Kong jusqu'au début du XXe siècle. Mais ça a disparu dès les années 20, les années 30, les années 1920-1930, où il y a eu les premiers efforts de polderisation juste devant. C'était vraiment c'était un endroit très prisé par l'aristocratie anglaise, par tous les gens qui venaient aussi de différents pays d'Europe. C'était vraiment l'endroit où il fallait être. Lieu de tous les possibles aussi, lieu de la prostitution, mais de la prostitution de luxe, lieu des fumeries d'opium, etc. etc. Donc ça a commencé, l'idée qu'on manquait de terre à Macao, ça a effectivement commencé assez tôt, avec la volonté de s'étendre sur la mer, donc en triplant effectivement en un siècle la surface, avec l'idée qu'à chaque phase, la poldérisation n'était pas normalement destinée à devenir un lieu où s'installeraient des casinos, mais plutôt des stades, des logements sociaux. Et rien de tout ça n'a été fait, parce que au-delà des belles promesses, très rapidement, en fait, comme beaucoup de choses, les choses prenaient du retard, on attendait 5 ans, 10 ans, et puis au final, les casinotiers disaient, puisqu'il n'y a rien, autant en faire quelque chose. Et ce sont les casinos qui développaient ces lieux. Donc d'une certaine façon, ce qui est en train de se passer, on manque de terre. L'idée que c'est une ironie, c'est vrai. Et en même temps, on n'a qu'une île à l'heure actuelle, donc l'île de Coloane, qui est encore assez verte, où ils commencent à construire d'ailleurs des logements sociaux et quelques développements de résidentiels de luxe. Donc l'idée, c'est quand même d'aller ailleurs. Et comme pour les autres parties qui ont été polderisées dans les siècles passés, l'idée à Renting, puisque c'est une concession faite par la Chine, c'est aussi ça l'ironie de l'histoire, une concession d'un territoire alors que Macao a été rendu à la Chine concède un nouveau territoire à Macao, à la région administrative spéciale, pour développer d'abord, donc 5 km², sur 1 km² se trouvera une université, donc l'université de Macao, qui vient d'ouvrir son nouveau campus, et vont se développer autour des services financiers, les industries de la création, création, ce genre de choses. Et puis, à terme, des grands complexes touristiques, mais d'entertainment, enfin de loisirs et d'hôtellerie, et normalement, absolument pas de casino. Donc les casinos seront interdits. La seule chose, c'est que c'est développé avec de l'argent de Macao et de l'argent qui vient des casinotiers. Donc encore une fois, entre les promesses de maintenant et ce qui se fera effectivement d'ici 10-15 ans, on peut imaginer qu'effectivement, à terme, en trouvant des dérogations, il puisse y avoir des casinos en fait en territoire chinois. Sachant que dans le gouvernement, parmi les députés, parmi les grandes figures responsables, chose qu'on en imagine assez peu effectivement en France, mais les grandes figures de responsables politiques à Macao, il y a quelques casinotiers, bien évidemment, pour faire bonne mesure. Alors pas au gouvernement même, mais dans les députés, et il y en a au moins 4. Et puis il y a beaucoup de développeurs de promoteurs immobiliers. Donc tous ces gens ont bien évidemment très intérêt à voir se développer des grands projets sur ces nouvelles terres aux marges de Macao.
Il
y a très clairement une volonté affichée du gouvernement de Pékin de redessiner la carte culturelle de Macao.
Tomé Quadros, jeune cinéaste.
Quand la loi fondamentale a été signée par les gouvernements chinois et portugais, l'idée derrière était que Macao devait être géré par les Macanais eux-mêmes. Mais ce dont on s'aperçoit ici, c'est que les Macanais n'ont que des intérêts économiques, sans aucune vision de moyen ou de long terme. Ici, on raisonne à court terme. L'avenir, on verra quand ça arrivera.
Si vous regardez l'UNESCO Heritage,
quand Macao a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quelque chose qui a été imaginé par le gouvernement de Pékin. Ici, à chaque fois qu'on voit quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, comme par exemple la préservation de l'héritage sino-portugais, vous pouvez être sûr, certain, que c'est Pékin qui est derrière tout cela. Sinon, ici, c'est vraiment comme un western, un film. Vous voulez un nouvel appartement dans un nouveau building? Vous pouvez tout casser, dedans comme dehors.
Merci à Eric Sautedet, Tomé Quadros, Agnès Lam, Franck Lay et Chaninho. Merci également à Carlos Mareros, Francisco Pinheiro, Constantin Besmertny et Ecolo. Merci enfin aux voix de France Culture pour les traductions. Macao, un Disneyland de l'Europe latine en terre chinoise. Prise de son et mixage, Jean-Michel Coqui. Réalisation Rafik Zénine. Attaché de production Meryl Moneghetti. Production coordination Catherine Libert. Une ville monde d'Alain Lefkovitch.
Depuis ce fut l'heure du départ. Il y a peu de villes que j'ai quittées avec plus de regrets, racontait Fleming dans son livre Thrilling Cities, traduit des villes pour James Bond. Ville fascinante, après Macao, l'enfer et l'envers des jeux. L'écrivain voyage vers la capitale mondiale du jeu, là où les enjeux vont jusqu'au ciel, comme il l'écrit, Las Vegas. Comme lui, après Macao, Las Vegas, Ville-Monde, première escale dimanche prochain 15 mai à 15h. Les voyages continuent sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter toutes nos escales à travers le monde en podcast éternellement.